France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous terminons notre série de la semaine, comment la société pèse-t-elle sur les individus, en vous proposant ce matin un cinquième épisode intitulé « Notre société est-elle vraiment de plus en plus individualiste ?» Cette question, notre société est-elle vraiment de plus en plus individualiste, est d'une actualité évidente. En cela, nous ne dérogeons pas vraiment à notre habitude du vendredi, qui est de vous proposer en général d'analyser des sujets d'actualité avec philosophie. L'individualisme est souvent perçu comme le mal fondamental de notre monde occidental d'aujourd'hui. Il reste à savoir ce qu'on entend par ce mot, individualisme, s'il signifie un pur renfermement sur soi, ou bien s'il s'accompagne d'une socialisation des individus concernés, et si oui, de quelle sorte? Liens familiaux, liens communautaires divers, religieux notamment, liens militants, liens bienveillants, tout cela n'a pas forcément disparu de notre société, en dépit d'un narcissisme remarqué par moult penseurs. Pour en parler, j'accueille un philosophe et sociologue qui a écrit des livres marquants sur ces sujets, Gilles Lipovetsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis Grenoble, merci aux équipes de Radio France qui permettent ce duplex. Il y a 40 ans déjà, et oui, vous écriviez « L'ère du vide », essai sur l'individualisme contemporain chez Gallimard. Depuis, vous avez publié d'autres travaux et en particulier « Le sacre de l'authenticité » paru chez Gallimard en 2021. Dans ce studio, je reçois le sociologue François de Saint-Gly, professeur émérite de l'Université Paris-Cité. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup écrit sur l'individu contemporain, sur ses liens familiaux, car la famille occupe vos recherches depuis longtemps, mais encore sur ses amitiés et ses manières de socialiser, parfois avec des inconnus. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je citerai juste votre livre de 2005 aux éditions de l'Aube, « L'individualisme est un humanisme ». Et enfin, à distance, nous sommes avec Aouès Séniguer, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur l'islam en France, plus exactement sur les islams, car vous insistez sur la variété des manières d'être musulman, refusant les simplifications mensongères. Je vous interrogerai sur ce que la foi religieuse contemporaine vient combler ou accompagner pour beaucoup d'individus d'aujourd'hui.
Merci. Chérie, le Nutella.
J'en fais une autre. Regarde si ça va.
Vous allez manger les spaghettis?
Comment?
Est-ce que vous allez manger les spaghettis?
Non, je supporte pas le gluten.
C'est que pour les photos. Elle est influenceuse.
Oh!
D'accord.
Wow.
Oui.
Ça vous rapporte de l'argent?
Je vous sers du champagne, monsieur?
Ah,
autre
du
chose?
Blanc, du blanc.
Oui, tout de suite.
Désolé, quoi?
Oui. Ça dépend. Ça dépend de... Ça permet d'avoir des trucs gratuits, à vrai dire. Cette croisière, c'est un cadeau.
Merveilleux! C'est son physique qui paye la croisière. Pas mal, hein? Super.
Vous avez raison, oui. C'est ça.
Très beau coup.
Ouais, c'est vrai. Pas mal, pas mal.
Merci.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre un extrait de la série, du film, Sans filtre, réalisé par Ruben Östlund en 2022. Une influenceuse se fait photographier devant un plat de spaghettis qu'elle ne mangera pas pour contrôler sa ligne, bien sûr, et poursuivre l'injonction assez à la mode du sans gluten, du sourire, des photos, de l'influence, de l'argent et donc un peu de mensonge aussi, un voyage de luxe offert grâce à tout cela, beaucoup de contrôle sur soi et son image. A-t-on affaire là, Gilles Lipovetsky, à un exemple paradigmatique du narcissisme contemporain?
Oui, indéniablement. C'est une des figures du néo-individualisme qui a déferlé à partir des années 60-70, mais qui présente deux faces.
Oui.
La première, c'est celle sur laquelle vous insistez, là, avec une sorte de normalisation, d'imposition, d'injonction à la minceur, d'injonction à la visibilité de soi, par une volonté permanente de se mettre en ligne, de se mettre en avant pour parler de soi, et donc on assiste là à ce qu'on pourrait appeler une sorte de narcissisme numérique, un narcissisme digital renforcé par les réseaux. Mmh. Et les selfies en sont une manifestation. Mais je pense que la discussion serait tout à fait biaisée si on s'en tenait simplement à ces formes nouvelles d'injonction qui accompagnent le règne de l'individu, sans prendre en compte l'autre face et qui est antinomique et qui est la croissance considérable de l'autonomisation des individus, du droit de chacun à être lui-même, à disposer de sa propre vie, et qui est, à proprement parler, la définition anthropologique de l'individualisme moderne. Le droit des êtres à disposer d'eux-mêmes, à conduire leur propre vie indépendamment des opinions des autres. Alors, pour comprendre, évidemment, de manière sociologique, l'individu contemporain, il faut en permanence prendre en compte ces deux faces. D'un côté, en effet, des nouvelles formes de ce que parfois on appelle des contrôles, mais enfin le mot pose problème, qui des formes de massification, de standardisation des comportements, dans la consommation, par exemple, mais aussi l'autre face, qui est la fracture des contrôles traditionnels, le recul des contrôles par la socialisation traditionnelle, l'affaiblissement des pouvoirs institutionnels, et qui rendent les individus plus libres de disposer d'eux-mêmes, et cela dans à peu près tous les secteurs de la vie familiale, dont a parlé François de Singly, évidemment, mais aussi dans la vie religieuse, dans la vie politique, dans l'alimentation, dans le sport, dans la mode, dans le luxe. Partout, aujourd'hui, on trouve ces deux faces antinomiques.
Alors, Avec Philosophie est une émission où, comme l'a dit Deleuze, faire de la philosophie, c'est réfléchir et créer des concepts. Donc, nous, c'est une émission dans laquelle nous réfléchissons beaucoup aux concepts. Et donc, j'entends dans ce que vous dites, Gilles Lipovetsky, qu'il y a un problème ou une équivoque dans le mot individualisme d'emblée. Il y a une phase communément considérée comme assez négative, qu'on pourrait peut-être appeler le narcissisme, et dont l'exemple donné dans le film Sans filtre était, me semble-t-il, assez probant. Et puis, il y a une face plus positive, et vous insistez pour que nous gardions ces deux faces. Est-ce que vous êtes d'accord, François de Singly ?
Je suis d'accord, mais je ne sais pas comment prendre l'analogie des deux faces, parce que pour moi, il y en a d'autres,
oui,
au moins aussi importantes dans la notion d'individualisme, qui fait que, en fait, on ne sait jamais complètement de quoi on parle, de mon point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord, notamment sur cette notion très importante du pouvoir sur soi, qui s'est quand même affirmé de plus en plus, et qu'on voit avec MeToo, la publicité actuelle. Vous ne pouvez pas. On voit un homme là actuellement dans les nouvelles publicités de l'État, un homme qui est avec une femme et elle doit dire oui. C'est même pas le silence ou un consentement. Donc la notion de consentement qui est quand même au centre aussi des discussions,
sur compris le consentement libre contemporain,
le consentement des malades en fin de vie et
absolument,
tout. On va donc c'est une question strictement individualiste sur cette dimension. Mm-hmm. Mais si on reprend à partir du 19e, les discussions sur l'individualisme, il y a une autre face, on va l'appeler troisième et quatrième, parce que les deux se dédoublent, qui est celui de la raison et aussi celui de la commune humanité. C'est-à-dire que derrière les apparences, que chacun a, nos rôles sociaux et tout, l'individualisme, c'est la conviction qu'il y a quand même quelque chose qui est caché au fond de nous. Et pas forcément le pouvoir sur soi, l'originalité, qui est Géraldine en tant que personne, et pas simplement en tant que productrice de l'émission. Ça, c'est une première chose. Mais nous avons aussi, donc il n'y a que vous, en termes de liens, on y reviendra. Il faudra faire des liens qui ne sont pas prédéterminés.
Oui.
Tandis que dans la conception individualiste, paradoxale, plus collective de la raison, vous avez la raison, Gilles, Amouès et moi, nous avons la raison. Donc normalement, déjà, nous avons un type de lien particulier qui ne renvoie pas justement à des rôles sociaux, mais à cette conception de l'individu raisonnable. Et puis, on a la commune humanité qui fait qu'au-delà des apparences, eh bien, normalement, on doit dépasser toutes ces apparences, puisque, en fait, nous appartenons à la même famille, la famille humaine, comme c'est déclaré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Alors, ce que j'entends, et puis je vous ai lu, donc ça confirme ce que j'ai lu, Gilles Povetsky et Françoise de Singly, c'est que vous êtes très marqués, je crois, tous les deux, par la conceptualité du philosophe canadien Charles Taylor, auteur en 1989 des Sources du Moi, qui réfléchit à la constitution du moi moderne et qui dit, là ça fait écho exactement à ce que vous venez de dire François de Singly, il y a d'abord eu un sujet avec une rationalité un petit peu désengagée, un sujet assez classique, celui de Descartes puis de Locke, rationnel, avec un certain rapport à l'universel. Et puis ensuite, c'est un peu le sujet romantique, le moi romantique, il y a eu le moi que Taylor appelle à partir du 19e siècle, à partir de Rousseau à vrai dire, mais il y a des racines plus anciennes. Le moi qui est au fond de lui, c'est qu'il a une source singulière qui s'y intéresse, qui veut la faire parler, couler en lui. C'est aussi ce que Taylor appelle l'expressivisme, le besoin de s'exprimer singulièrement. Et c'est ce qui a produit une culture que Taylor appelle de l'authenticité, la recherche de l'authentique en moi. Et je sais, bien sûr, Gilles Povetsky, que ce mot est central pour vous, ce concept authenticité. Mais je vous propose qu'on reporte un tout petit peu à plus tard la discussion sur l'authenticité. Je voudrais continuer le tour de table. Amouès Séniguère, est-ce que Amouès Séniguère, est-ce que vous pensez qu'il y a dans la quête religieuse contemporaine qui est multiple, c'est ce que vous dites à propos de l'islam, vous insistez sur cette pluralité des rapports à la foi, est-ce qu'il y a quelque chose à combler pour l'individu, autrement dit, cela comble-t-il un vide, pour parler comme Gilles Povetsky, ou bien est-ce juste un accompagnement, mais pas la réponse à un manque?
D'abord, je répondrai en deux temps, je vous remercie de cette question. Le premier temps, c'est de rappeler que la religion ou la vie religieuse est tributaire des scansions de la société. Les vies religieuses ne se vivent pas complètement en dehors de la cité, en dehors d'une interaction avec les autres. Ça, c'est le premier point. Le second point, tout dépend de la manière dont on conçoit la religion. Si l'on a une perspective fonctionnaliste, on pourrait répondre de la manière que vous suggérez, c'est-à-dire que la religion viendrait combler un manque ou répondre à une quête de sens. Tout cela dépend des individus et dépend aussi de la socialisation primaire. Beaucoup de personnes qui croient, quelle que soit la religion considérée, ont été socialisées dans un espace religieux, à certains égards, beaucoup ou peu, héritent de cette tradition religieuse, qu'ils investissent ou qu'ils délaissent. La religion, l'attachement religieux n'est pas tributaire ou n'est pas fonction systématiquement de l'origine sociale. On peut être très riche et très croyant, très investi dans l'observance, être pauvre ou démuni socialement et être loin de la religion. Donc je crois qu'il faudrait éviter, parce qu'on peut avoir ce réflexe, éviter de corréler l'appartenance religieuse ou l'investissement religieux à une situation de désespérance sociale.
Mais est-ce que je peux vous poser une question un peu plus précise? François de Singly parle de liens faibles parfois pour l'individu. Il va nous expliquer ce que c'est. Il y a quand même de la socialisation. L'individu se sent lui-même. Peut-être est-il largement autosuffisant, mais il tisse parfois des liens faible, précaire, et peut-être les amitiés sont-elles de cette sorte. Quand on parle de l'islam, on a l'impression toujours d'un lien fort. Les figures immédiates qui nous viennent sont des gens qui entrent en religion sur un mode potentiellement fanatique, et vous luttez contre cette image qui est réductrice. Est-ce que vous diriez qu'il peut y avoir un lien faible chez beaucoup de musulmans contemporains à la pratique religieuse et au Dieu qu'il célèbre?
Je dirais que bon, ça dépend encore une fois des trajectoires. Vous avez beaucoup de musulmans qui ont été socialisés dans une famille religieuse musulmane et qui redécouvrent l'islam souvent en opposition à l'islam hérité des parents. Il y a l'héritage familial qui est un lien, je dirais, faible en l'occurrence. C'est-à-dire que dans les familles des premières générations, il pouvait y avoir une pratique religieuse, mais cette pratique religieuse n'était pas forcément à haute intensité. Toutes les familles, il n'y avait pas forcément des parents qui priaient ou qui observaient la prière. Il pouvait y avoir des moments de communauté ou de fraternité pendant le mois de Ramadan, qui était souvent observé. Et les enfants de la seconde génération, quand ils redécouvrent l'islam, peuvent avoir un lien fort au départ.
Oui.
Et suivant l'évolution qui sera la leur, relâcher ce rapport rigide, rugueux à l'islam.
Ça existe en fait, au moins autant que l'inverse. Ça existe au moins autant que l'inverse, le passage du faible au fort.
Je le pense. C'est comme une sinusoïde, si vous voulez. Il y a un attachement progressif parce qu'il y a un accès à l'écriture. N'oublions pas que tous ces phénomènes d'islamisme sont liés à l'accès à la scolarité des enfants. Les parents ne lisaient pas forcément. Donc l'islam dont ils héritaient n'était pas un islam intellectualisé. Donc les enfants qui découvrent l'écriture, qui découvrent des ouvrages religieux, peuvent revenir à la religion. Et c'est autant lié à une quête individuelle qu'au regard de la société qui est portée sur eux. Il faudra sans doute le dire au cours de l'émission. Et puis cet investissement peut se relâcher en fonction des interactions sociales. Je vous donne un exemple très rapide. Le principe républicain, on parle beaucoup de république ces dernières années, à tort et à raison, tantôt à tort, tantôt à raison, vous avez beaucoup de musulmans, y compris très conservateurs, qui ont intégré tellement le principe républicain qu'ils refusent même de prendre des positions sur des bases religieuses quand ils s'expriment publiquement. C'est dire les effets du contexte sur le rapport que peuvent avoir les musulmans à leur propre religion.
Alors, bien sûr, je vais faire réagir Gilles Lipovetsky et François de Singly à ces questions, mais je voudrais les réintroduire ou les approfondir en vous entendre un autre extrait sonore. Il s'agit cette fois-ci d'un extrait du film Fleabag. C'est pour le coup une série. Il s'agit de la saison 2, épisode 4, où une jeune fille vient chercher quelque chose, vous me direz quoi, auprès d'un prêtre.
I want someone to tell me what to wear in the morning.
Je veux que quelqu'un me dise ce que je dois porter le matin.
D'accord. Il y a des gens qui...
Non, je veux quelqu'un qui me dise ce que je dois porter tous les matins.
I want someone to tell me what to eat.
Je veux quelqu'un qui me dise quoi manger, quoi aimer, quoi haïr, ce qui doit m'énerver, quoi écouter, quel groupe aimer, quel film aller voir, sur quoi je peux blaguer, sur quoi je peux pas blaguer. Je veux que quelqu'un me dise en quoi croire.
Who to vote for and who to love and how to...
Pour qui voter, qui aimer et comment arriver à leur dire.
I just think I want someone to tell me.
Je crois que je veux que quelqu'un me dise.
How to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong.
Comment vivre ma vie, mon père, parce que jusqu'ici j'ai l'impression d'avoir tout faux. Et je sais que c'est pour ça que pas mal de gens se tournent vers quelqu'un comme vous. Parce que vous leur dites comment faire. Vous leur dites même quoi faire et tout ce qu'ils y gagneront à la fin. Et pourtant, je crois pas en ces conneries. Je sais scientifiquement que quoi que j'ai fait, ça n'a aucune importance. Mais j'ai quand même peur. Mais pourquoi j'ai si peur? Alors dites-moi ce que je dois faire.
So just tell me what to do.
Oh bordel, dites-moi ce que je dois faire, mon père.
Just fucking tell me what to do, Father.
Dites-moi, François de Singly, là, c'est pas un lien faible hein, qu'elle cherche, cette jeune fille. C'est un lien très très fort. Elle cherche quelqu'un qui lui donne des injonctions susceptibles enfin de la calmer.
Alors, c'est pas seulement lien fort, lien faible. Non, là, elle cherche, j'allais dire, une forme d'autorité. extérieur. Oui, oui. Dites-moi ce que vous, ce que je vais, dois faire, qui est quand même exactement le contraire du pouvoir sur soi, puisque là, elle se volontairement, d'une certaine façon, elle se dépossède.
C'est parce que c'est insupportable, l'individu.
À la fois, c'est insupportable, et puis c'est le conflit dont Durkheim a conscience dès le départ en prenant une position très ferme sur la logique de la raison. Il ne faut pas oublier, me semble-t-il, que la sociologie est créée parce que justement il y a une crise du lien social. Et donc les sociologues cherchent comment faire à nouveau relier les individus. Or en fait, pour Durkheim, c'est évident que ça ne va pas être justement par des liens singuliers, la logique de l'amour, tout ça, ça ne lui parle pas vraiment.
Et Durkheim dirait que c'est à cause, là, ce qu'elle cherche, c'est le social. Si on est Durkheimien jusqu'au bout, il disait que Dieu est une figuration de la société dans les...
Oui,
dans
alors, son livre ça, de 1912. Exactement.
Donc en fait, ce qu'elle cherche, cette pauvre fille dans le prêtre, c'est le social.
C'est une Durkheim, forme hein. D'autorité, il y a une phrase de Durkheim que j'arrive pas à retrouver, mais qui dit « c'est décisif d'être aussi dépassé, surpassé par quelque chose qui vous dépasse ». Et donc c'est justement soit Dieu, soit la raison, mais quelque chose qui n'est pas moi. Donc la définition paradoxale d'une certaine forme d'individualisme, c'est, et on le voit je pense avec ce que vient de nous dire Aouès, c'est que éventuellement c'est un lien faible au sens je cherche quand même quelque chose qui me dépasse, oui. À la condition que j'ai quand même une petite maîtrise dessus. Alors on le voit bien dans certains travaux, notamment aussi sur la religion, par exemple, catholique, c'est que les gens bricolent en partie, c'est-à-dire, bon, vont non seulement suivre telle chose, mais par ailleurs, ils vont dire, bon, l'enfer, par exemple... Je suis pas sûr qu'il y ait forcément énormément de catholiques qui croient aujourd'hui à l'enfer. Donc, il règle.
Il y a un petit aménagement.
Des aménagements qui font qu'on peut être dépassé tout en ayant quand même le sentiment d'avoir créé ma religion.
Alors, j'enfonce le clou, parce que sur vos terrains privilégiés, par exemple la famille, est-ce que dans l'amour, c'est pareil? On cherche la passion qui va nous déborder, on donne l'impression, on se fait croire qu'on cherche le non-contrôle absolu, mais en vérité, dans le vécu que vous analysez des relations amoureuses et familiales, de couple, c'est pas vrai. On veut maîtriser, on veut quand même que nous, individus, on soit pas trop dépassés.
Oh, exactement.
Vous êtes d'accord.
Non, c'est parfait.
C'est vous. En fait, je vous cite là.
Non, je me suis pas complètement reconnu, mais je trouve que c'est bien. Par rapport à la logique de la passion qui, effectivement, dépasse. Mais il est clair qu'en même temps, et c'est justement la logique de transformation de la représentation de l'amour, hein, et de la vie éventuellement en couple aujourd'hui, c'est qu'en même temps, je veux rester maître de moi-même. Et donc, il y a quand même une tension extrême entre le fait de vouloir être dépassé, faire se fondre dans l'unité amoureuse, et le fait de revendiquer, j'ai amené juste une toute petite citation, parce que presque tout est dit dès 1879, dans Maison de poupée, quand la femme Nora dit « je veux partir », son mari lui dit « mais quand même, tu vas manquer à tes devoirs et tout », et dit « non, je manque, moi, c'est mes devoirs les plus sacrés ». Alors, qu'est-ce que tu considères comme tes devoirs sacrés? Mes devoirs envers moi-même.
Oui.
Et elle ajoute, son mari lui dit, tu es d'abord épouse et mère. Et elle dit, je ne crois plus à cela. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain au même titre que toi. C'est-à-dire ici, c'est même pas le genre hein, qui sort. C'est-à-dire que nos conditions...
C'est l'individu, pas le genre.
Oui. Et donc, il y a une tension très grande de l'individu ici singulier. Je veux rester moi-même.
Il lui faut quand même toute la pièce hein, pour y arriver. Mais vous avez raison, à la fin, il y arrive.
Oui.
Alors, Gilles Lipovetsky, je voudrais savoir si toutes ces ambivalences, c'est-à-dire je veux du lien, mais je veux quand même un peu contrôler, j'aménage pour que ce qui me dépasse, qui me fait très envie, par exemple sur un mode passionnel, en réalité, je veux pouvoir l'intégrer, penser à la singularité de mon moi, et tout ça, tout ce que vient nous décrire François de Singly, est-ce que c'est tout cela qui se joue dans ce que vous avez appelé, il y a un certain temps, l'ère du vide?
D'abord, je crois que pour bien comprendre ce qui est en jeu, c'est que on est entré dans une type de civilisation marquée par la prolifération des références, des modèles, et qui a ouvert un champ de décision très ouvert. Quand l'humanité a vécu pendant des millénaires et des millénaires dans des sociétés où les comportements étaient d'une certaine façon pré-réglés, parce que la puissance organisatrice de la religion ou de la tradition faisait que le choix n'avait aucun sens, parce qu'il n'y avait pas 36 modèles, il n'y en avait qu'un. Et donc il fallait le reproduire de génération en génération d'ailleurs. Le problème, c'est que avec l'âge moderne, tout ça s'est évidemment peu à peu effrité. Et puis, avec l'avènement de la civilisation de la consommation et de la communication, les individus se trouvent dans un univers totalement différent. Prenons un exemple. La mode.
Oui.
La mode est souvent présentée comme antinomique de l'individualisme. Puisque dans la mode, il y a des tendances et que chacun doit obéir à cette tendance, se fondre dans la tendance de la saison. C'est tout à fait exact, historiquement. Mais il se trouve que depuis les années 70-80, la mode, il est impossible de la définir de manière stricte parce que tout cohabite. Alors, Dans ce cadre-là, il y a des individus, comme on l'a vu dans la petite séquence, qui demandent des conseils par des coachs, par exemple. Alors, comment je dois m'habiller? Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui est... Parce que on ne sait plus ce que c'est.
Ouais.
Et donc, il y a, en effet, on trouve sur cette logique-là. Mais on perd de vue, encore une fois, que pour une masse d'individus, la mode, du fait même de son éclatement en modèle hétérogène, rend possible une affectivisation, une psychologisation du rapport au paraître.
Et oui, autrement dit, Simmel l'avait fort bien montré, on en a déjà parlé dans le premier épisode, c'est que la mode permet aussi à l'individu de se construire, mine de rien, même
exactement.
S'il y a des injonctions qui pèsent sur lui. On va revenir à Simmel, et d'ailleurs à Durkheim aussi, mais je voudrais maintenant demander à Wes Seniger, pardonnez-moi, je répète, à Wes Seniger, je voudrais vous demander si, dans l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure d'une jeune fille qui demande à un prêtre de lui dire ce qu'elle doit faire, de choisir, de l'aider à choisir, est-ce que c'est quelque chose qui évoque pour vous certaines formes d'entrée en religion? Et là, vous êtes spécialiste de l'islam et de la religion musulmane en France. Je voudrais aussi savoir, bon, je comprends bien, je ne serais pas surprise qu'aucun religieux, aucun croyant n'accepte l'analyse de Durkheim. Durkheim dit que Dieu n'est que la figuration de la société et que c'est le social qu'on cherche quand on cherche Dieu. Je me doute bien que les croyants ne le reconnaissent pas ou n'ont pas cette analyse. Mais vous, qui êtes sociologue, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre, une quête de social que vous sentez dans la demande religieuse contemporaine?
Oui, probablement. C'est-à-dire que, d'abord, pour réagir à ce qui a été dit, fort bien dit, les personnes cherchent une réponse autorisée qu'ils se sont donnée à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche la réponse qu'on attend de celui vers lequel on s'est tourné. C'est souvent le cas en islam, on ne le sait pas suffisamment, mais vous avez beaucoup de musulmans qui cherchent une réponse, qui suggèrent une réponse à une personne dont elles savent qu'elle va leur répondre de telle ou telle manière. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Par ailleurs, sur la recherche de liens, oui, et on le voit notamment pour certaines jeunes filles converties à l'islam, qui choisissent, pas systématiquement, mais assez souvent, de porter le hijab. C'est une manière aussi de sortir d'une forme d'isolement pour être en interaction avec une communauté jugée plus chaleureuse, plus accueillante, vive en termes de pratiques religieuses.
On pourrait dire, d'autres diraient, c'est juste une pression sociale autoritaire. Mais vous, vous dites autre chose.
Oui, je dis autre chose parce que précisément, j'ai suivi certains cas de ce type, Vous avez, je prends l'exemple de femmes, je pourrais prendre l'exemple d'hommes, hein, c'est tout à fait possible et envisageable. Mais vous avez des filles qui choisissent au départ, pour se conformer à une norme qu'elles estiment être fondamentale, se conformer au voile. Mais ce voile, elles ne le conservent pas forcément. Et parfois même, quittent-elles l'islam. C'est-à-dire qu'elles ne restent pas en islam. Parce que sans doute, cherchaient-elles quelque chose à un moment donné. Une fois ce quelque chose abouti, elles décident d'aller vers autre chose. Donc le lien, il est vraiment évanescent, il n'est pas systématique. C'est pourquoi je parle beaucoup de circulation.
Et est-ce que vous voulez dire là que la recherche de symboles qui apparaissent comme ultra-conservateurs, en réalité n'est pas forcément une réaction à la modernité, n'est pas forcément la quête d'un passé pré-moderne, un désir de tradition, mais au contraire pourrait être une attitude très moderne, c'est-à-dire dans les quêtes perdues de l'individu, il va s'aménager une manière tout à fait à lui de vivre, d'intégrer des éléments traditionnels, et les quêtes un peu d'un islam rigoureux ont quelque chose d'effroyablement moderne lié à l'individualisme contemporain.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit souvent de traditions au pluriel réinventées. Ça, c'est même par rapport à la norme religieuse réelle ou présumée. Il y a une reconstruction de la part des individus. Je vais vous donner un exemple qui est comme un mantra pour rappeler le rapport divers à l'islam. Tout ce qui est dans la tradition religieuse n'est pas mis en pratique par les musulmans, et tout ce que font les musulmans ne répond pas exactement à ce qui se trouve dans les textes classiques, puisqu'il y a des sélections qui sont opérées, des interprétations. Et par conséquent, ces individus reconstruisent un lien très souvent fantasmé, fantasmatique à la religion. Ce n'est pas parce que l'on croit que le voile est obligatoire, par exemple, qu'il se trouve des textes injonctifs de ce type. Donc il y a des va-et-vient permanents et une recherche d'authenticité dans certains textes. Et on le voit notamment pour les courants salafistes, et qui se revendiquent des trois premières générations de l'islam. On se rend bien compte qu'ils cherchent, par cette authenticité présumée, à s'opposer à un environnement jugé hostile, c'est-à-dire stigmatisant, et donc il y a une forme de retournement du stigmate. Comme vous nous considérez comme extérieurs ou étrangers à la société française, nous allons investir positivement ce stigmate. Et puis vous avez d'autres phénomènes tout à fait passionnants, comme le burkini, hein, ce vêtement de bain couvrant. Et on a, si vous voulez, les commentateurs ont raté le coche, puisque ce vêtement n'est ni islamique, ni islamiste. C'est une façon pour ces femmes de concilier deux contraintes, la contrainte qu'elles estiment être religieuse, à porter un vêtement pudique, et une contrainte de l'extérieur, puisqu'on ne peut pas se baigner vêtu entièrement. Et donc, on pourrait dire que le burkini est un produit contradictoire de la modernité qui cherche à concilier deux contraintes. Et je crois qu'on se trompe quand on considère ce type de vêtements comme étant des vêtements qui marqueraient le primat d'une forme fondamentaliste de vie religieuse.
On n'a pas le temps de faire un débat entier là-dessus, mais on a entendu votre position qui s'intègre donc à notre question d'aujourd'hui, hein, qui n'est pas la religion elle-même, mais notre société est-elle vraiment de plus en plus individualiste? Je suis en compagnie de Gilly Povetsky, de François de Singly et donc d'Anouès Séniguer. Il s'agit du cinquième épisode de notre série « Comment la société pèse-t-elle sur les individus ?» Mais c'est aussi une question d'actualité, ce qui rejoint notre habitude du vendredi.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'individualisme est un concept difficile, il y a beaucoup de choses en lui. Certains disent une face jolie et une face plus sombre. Il y a peut-être encore beaucoup d'autres faces. Je vous propose de revenir au texte un instant. Nous sommes dans Avec philosophie. Voici un texte de Durkheim de la fin du 19e siècle.
Sans doute, si la dignité de l'individu lui venait de ses caractères individuels, des particularités qui le distinguent d'autrui, on pourrait craindre qu'elle ne l'enfermât dans une sorte d'égoïsme moral qui rendrait impossible toute solidarité. Mais en réalité, il la reçoit d'une source plus haute et qui lui est commune avec tous les hommes. Ainsi, l'individualisme peut être entendu comme la glorification, non du moi, mais de l'individu en général. Il a alors pour ressort non l'égoïsme, mais la sympathie, pour tout ce qui est homme. Une pitié plus large pour toutes les douleurs, pour toutes les misères humaines. Un plus ardent besoin de les combattre et de les adoucir, une plus grande soif de justice. N'y a-t-il pas là de quoi faire communier toutes les bonnes volontés? Sans doute. Il peut arriver que l'individualisme soit pratiqué dans un tout autre esprit. Certains l'utilisent pour leur fin personnelle, l'emploient comme un moyen pour couvrir leur égoïsme et se dérober plus aisément à leurs devoirs envers la société. Mais cette exploitation abusive de l'individualisme ne prouve rien contre lui.
C'est donc complexe, l'individualisme. On pourrait citer un texte de Georg Simmel qui dit à peu près la même chose, certes avec un autre vocabulaire. À la fois, l'individu se sent comme un tout, mais il se sent aussi comme la partie d'un tout plus grand que lui. Il y a une dimension égoïste, il y a une dimension ouverte sur autre chose. Est-ce que vous pensez, François de Singly, que ce problème est trop souvent simplifié dans la manière de hurler contre l'individualisme contemporain?
Oui, c'est quand même la chose qui me fascine, c'est que on fait une émission, les sociétés sont-elles de plus en plus individualistes? Les gens qui le dénoncent vont montrer toute une série de choses qui montrent qu'il y a de l'individualisme, au moins pour une vision partielle. Et en même temps, ça serait quelque chose de paradoxal, puisque la société aurait inventé, pour la première fois, une religion détestable. Normalement, il y a un accord entre le social et la forme religieuse. Non, mais non.
Mais nous, on a le droit de critiquer.
Ah non, non, mais moi aussi, j'ai le droit de critiquer.
D'ailleurs, vous êtes un peu critique aussi.
Non, mais c'est simplement qu'en fait, c'était pour montrer la complexité. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, par exemple, sur la version même, non pas égoïste, mais d'affirmation de soi, qui va jusqu'au pouvoir sur soi, qui est, de mon point de vue, non critiquable, on se trouve dans des logiques où même ces personnes, par exemple, dans des entretiens, vont développer le fait que c'est vraiment important qu'elles maîtrisent le pouvoir sur elles-mêmes, je dis, y compris sur la fin de vie, sur plein de choses. Mmh. Pouvoir des malades, la loi de 2002, oui. Quand même quelque chose de très important. Et en même temps, à la fin de l'entretien, vont dire « mais je suis vraiment contre l'individualisme ». Et donc ici, moi je pense qu'il y a le problème fondamental, c'est que dès que l'individualisme commence à émerger de manière forte sous ses différentes formes, il va y avoir, entre guillemets, la recherche plus ou moins nostalgique d'une forme de communauté. Durkheim, je pense, était pour moi un peu naïf, donc là, je m'autorise à le critiquer.
Autorisez-vous.
C'est simplement de penser que la communauté de la raison serait suffisante. La communauté de la raison, ça veut dire la citoyenneté. C'est une chose importante, elle manque de quelque chose, clairement. Il y a aussi une forme de chaleur dans la notion de communauté quand on travaille sur le lien communautaire. Et donc, on voit bien qu'on peut être strictement individualiste et en même temps, par y compris Internet et tout, se créer des communautés choisies d'une certaine façon. Et donc, en fait, il y a une tension. Tout le monde est à la recherche, en étant modérément individualiste ou très fortement, quand même des formes de communauté. La religion, alors on veut bien, mais normalement, éventuellement, on va la bricoler quand même. La famille, on veut bien, le couple, mais on le bricole quand même. On invente à chaque fois des choses qui essayent, on le voit dans la notion, puisque sur la vie privée, par exemple, du développement et chez les trentenaires, mais aussi à 60 ans, ça, c'est plutôt ça la surprise, d'hommes et de femmes qui redeviennent ou qui viennent, ils sont amoureux, un des deux, le plus souvent l'homme, demande à vivre ensemble, en couple, et la femme dit « non, on va se donner des bons moments ensemble, mais de logement ». Eh bien, c'est une logique dans laquelle on essaye de maintenir le lien, tout en préservant quand même en partie, le pouvoir sur sa propre vie. Donc, on est, je crois, dans la recherche permanente, sous des formes très diversifiées, de cette tension entre l'intérêt d'avoir des liens
chaleureux.
Des liens chaleureux, les proches, les autrui significatifs, et en même temps, le fait que je reste, ne pas se laisser déborder. Et c'est pour ça que les femmes, et le mouvement des femmes et les textes autour dans la littérature sont décisifs parce que c'est en permanence cette tension qui est décrite. Plus que sur le fond dans la littérature masculine.
Alors, Gilles Lipovetsky, parlons maintenant à propos de liens chaleureux, de recherche de communautés chaleureuses, où le moi puisse s'exprimer. Expressivisme, dit le philosophe canadien Charles Taylor, être reconnu, concept de reconnaissance qui est très important aussi en ce moment en philosophie contemporaine, et Charles Taylor y a beaucoup contribué. Parlons donc de cette quête que Taylor appelait d'authenticité, qui s'est beaucoup déployée, notamment depuis l'âge romantique, et sur lequel vous-même avez écrit, puisque votre livre de 2021, Gilles Lipovetsky, s'appelle « Le sacre de l'authenticité ». J'ai une question très simple. Est-ce que vous êtes enthousiaste, critique, ou les deux ?
Les deux. Les deux. Le principe d'authenticité individuelle, le droit à être soi-même, à conduire sa vie selon ses dispositions propres, me paraît plus que jamais un principe éthique fondamental à défendre face à toutes les formes d'oppression, toutes les formes de fondamentalisme. C'est au nom de ce principe que on peut et qu'il faut combattre, je sais pas, le sort des femmes en Afghanistan, l'excision dans certaines régions d'Afrique, etc. C'est au nom du droit de chacun à disposer de soi, et en particulier de son corps. Et cela, c'est le principe de l'authenticité. Maintenant, il est évident que le principe d'authenticité individuelle n'est pas à la hauteur de tous les défis qui sont les nôtres. Cela ne peut pas suffire pour régler des problèmes gigantesques qui se profilent et qui ne cessent de monter. Les problèmes de la consommation, le réchauffement climatique, la crise de l'éducation, le populisme, toutes ces choses-là, mettre en avant l'authenticité comme étant une sorte de panacée, une sorte de clé universelle apportant la solution à toute chose, me paraît une illusion. C'est une pensée magique. Nous avons besoin du principe d'authenticité, mais nous avons besoin de bien autre chose, d'une formation, et la formation, elle implique des formes d'imposition.
Oui.
Laisser les individus tout le temps libres d'eux-mêmes sans un minimum d'imposition. L'imposition n'est pas une contrainte totalitaire, elle peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas, et elle est nécessaire à la formation d'un esprit libre d'une raison, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Alors vous n'êtes pas cependant d'une radicalité critique, mais plus personne ne l'est, je crois, je ne rencontre jamais personne, y compris dans ce studio, qui l'est, radicalement critique, la position, je pense à la position de Lionel Trilling en 1971, dans un livre que je trouve très intéressant, en tout cas, Sincérité et authenticité, où il dit que tout ça c'est un énorme mensonge, que la quête du moi profond, c'est un grand cirque, mais qui ne trouve jamais que du mensonge sur soi-même, de la refabrication. Bon, je ne vais pas vous demander de discuter avec Trilling, mais quand même cette question, Gilles Lipovetsky, est-ce que c'est si étonnant que cela, que dans la quête du moi profond et de l'authentique, on se retrouve en fait à voir ressortir de l'identitaire, du communautaire? C'est peut-être pas si étonnant que cela. On prétend chercher le singulier, en vérité, on trouve du communautaire pas forcément très tolérant, et toute une hystérie autour du concept d'identité.
Vous avez raison, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en grande partie, ce qu'on a appelé, d'ailleurs, une formule discutable, le retour du religieux, le retour du communautaire, la réhabilitation de la tradition et toutes ces choses-là, c'est en grande partie une réaction à la désorganisation individualiste du champ social. C'est parce que l'univers néo-individualiste a fait sauter toutes les formes de contrôle, d'imposition, de tradition, que les individus se trouvent, bon, en parlant un terme entre guillemets, déboussolés, ils n'ont plus de repères, que du coup la communauté ou la religion peut revenir, et sous une forme du coup très stricte. Parce que on connaît par exemple un certain nombre d'études qui ont très bien montré que les conversions à l'islamisme politique le plus intransigeant, pas tous les cas, mais dans de nombreux cas, ce sont des individus qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qu'ils ont vécu dans des conditions compliquées, ils ont des échecs partout, et l'engagement fort dans ce domaine-là leur redonne une dignité, vis-à-vis d'eux-mêmes, j'entends, hein, et ils se reconstruisent par la même. Autrement dit, le retour de ce communautaire, c'est l'effet paradoxal de la société hyper individualiste.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, François de Saint-Gly?
Je pense qu'il y a une forme de désaccord sur qu'est-ce qui est caché au fond de soi. Il y a, à mon avis, une tension. En tout cas, j'ai mis du temps parce que il y a beaucoup de textes sur le fait qu'il y aurait caché mon vrai moi. Et donc, je vais me retirer dans mon arrière-boutique parce qu'il faut quand même citer Montaigne, c'est une grande œuvre individualiste, hein, de pensée.
C'est une lecture, c'est celle de Taylor.
Oui.
Vous avez raison, mais c'est...
Non, mais c'est justement...
D'accord.
Charles Taylor, je suis d'accord, mais justement, il ne développe pas tellement la dimension plutôt de la raison et tout. Il est sur la période plutôt d'affirmation de moi. Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, si on est là, vous avez raison de le souligner, on va avoir les dimensions identitaires. Et donc... quelle qu'elle soit, identitaire au sens d'un groupe, je suis, en fin de compte, pour être moi-même, je me rappelle dans un film qui s'appelait Sur la route de Madison, à un moment donné, la femme dit, elle a le sentiment d'exister et dit, je suis une femme. Donc là, elle renvoie à une catégorisation.
Mais là, elle dit « je singulier » ou « je genre ».
Ah non, elle dit un «
je singulier » ou « je genre ».
C'était le commentaire que j'avais fait. Mais ce que je voulais dire, c'était que on peut s'en sortir, de mon point de vue, au sens de l'individualisme positif dans la version, en définissant le fait que c'est le pouvoir sur soi qu'il faut développer dans la notion individualiste. Et donc, ça n'est pas nécessairement... Des gens peuvent passer par la logique de l'appartenance à une identité. D'autres personnes, on le voit d'ailleurs, travaillent plutôt sur le flou identitaire, on pourrait dire. La pensée queer est aussi une pensée individualiste. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est moi qui définis, y compris en fonction des heures, le genre auquel je m'identifie.
D'accord, mais là, je vais vous bousculer comme un peu, je vous prie de m'excuser, mais ce n'est pas dans un, je répète, une hystérie identitaire contemporaine
liée à
l'obsession de l'authenticité.
Non. Le mouvement MeToo, pour moi, est un mouvement...
Ah, mais ce n'est pas ça que je visais particulièrement.
Non, mais attendez, c'est moi qui réponds. Le mouvement MeToo, le pouvoir sur les malades, la loi sur la fin de vie, c'est de dire « je veux rester maître de mon existence ». Puisque vous voulez que je sois en désaccord, je peux l'être sur un point qui est que je ne crois pas que toutes les formes d'affirmation de soi renvoient d'abord à une conception d'abord de l'authenticité qui renvoie justement à des formes de développement personnel, d'olto, chaque enfant a une identité qui serait là et qu'il faudrait développer et tout. Non, je pense qu'il y a une forme. La forme du pouvoir sur soi ne renvoie pas au sacre de l'authenticité. Il renvoie au sacre de l'autonomie. Mais l'autonomie-authenticité, c'est une question que je pourrais poser à Gilles, c'est... pas forcément équivalent. Donc, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à ça, on peut très bien considérer que l'individualisme n'est pas une illusion. On pourrait faire la liste de toutes les logiques et qui prennent souvent des formes paradoxales parce que ce sont des luttes collectives, si on prend sur les luttes féministes, mais qui sont pour que mon corps m'appartient. Ben, mon corps m'appartient, c'est une affirmation, pas d'abord d'authenticité, mais une forme de pouvoir. Donc je pense que la lutte autour de l'individualisme, c'est une lutte sur la conception du pouvoir qui fait qu'il y a une dimension dont on a juste esquissé une seconde, c'est qu'il y a un rapport un peu anti-autoritaire dans l'individualisme.
Il faut que vous me pardonniez à Wes Seniger ainsi que Gilles Lipovetsky. Je n'ai plus le temps pour vous interroger sur ce sujet complexe. Il est hors de question que je vous pose des questions avec des réponses à 15 secondes. Donc, pardonnez-moi, mais je crois qu'on a bien entendu vos deux positions respectives. Et je vous avais posé, avant d'interroger François de Saint-Gly, vous-même à Gilles Lipovetsky, la question de l'hystérie de l'identitaire au sein d'une culture de l'authenticité. Merci beaucoup à tous les trois. Pour finir, nous avons une chanson assez appropriée, me semble-t-il. A Star in the Ghetto. C'était Average White Band, A Star in the Ghetto, un album, une chanson extraite de l'album Benny and Us de 1977. Tant pis pour Hollywood, tant pis pour Broadway, je serai une star dans mon ghetto. Ça dit peut-être quelque chose des désirs individualistes contemporains, même si je pense que beaucoup de gens ont envie de Broadway et d'Hollywood malgré tout. Merci Gilles Povetsky, merci à Wes Seniger, merci François de Saint-Gly. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'abstrait et du concret. Voici le pourquoi du comment.
Comment concrétiser la justice ? La différence entre l'abstrait et le concret n'est pas elle-même une différence abstraite. C'est une différence très concrète qui a des effets dans la vie, puisqu'au fond, c'est là le sens véritablement du concret. C'est ce qui concerne notre vie, c'est ce qui a des effets sur notre vie. Et finalement, on a tort de penser que le concret est le donné. Le concret, ce serait le point de départ d'où l'abstraction tirerait, pour le meilleur et pour le pire, dans l'esprit humain, des dimensions qu'elle explorerait pour elle-même. Par exemple, la dimension mathématique, la dimension morale dans notre vie, la dimension des grands principes, la dimension que l'art va explorer de manière séparée, par exemple l'art abstrait à qui on reproche de ne pas rendre en quelque sorte l'apparence immédiate du monde, ce dont on ne sait pas ce qu'elle est, puisque notre cerveau lui-même abstrait des dimensions du monde, puisque notre cerveau lui-même est un analyseur, un opérateur d'abstraction, puisque l'abstraction fait partie de la vie humaine au moins autant que la concrétude supposée initiale du monde donné. En réalité, le concret n'est peut-être pas le donné initial, d'où ensuite nous abstrairions par erreur ou par avec un danger de fictionnalisation des dimensions gratuites. Non, le concret est plutôt la pierre de touche de nos idées, ce vers quoi il faut revenir pour changer notre vie et effectivement pour donner un effet à nos principes, un effet à nos pensées, un effet aussi à nos calculs pour le meilleur et contre le pire. Ainsi, l'enjeu pour une théorie de la justice, pour une théorie morale et politique en particulier, mais aussi pour une théorie esthétique ou pour une théorie scientifique, l'enjeu c'est de prouver ses effets concrets et c'est seulement de cette façon, bien entendu, qu'elle redonnera confiance aussi aux êtres humains, car le concret est la pierre de touche de la confiance. Le concret, non pas seulement, encore une fois, comme un mythe, le donné initial, mais comme une épreuve, comme une preuve et une épreuve. La question, comment concrétiser la justice. Comment rendre concret les grands principes est alors critique et crucial. Or, bizarrement, les progrès de la justice ne seront pas la réalisation immédiate d'une idée abstraite dans sa totalité. Peut-être que les critères concrets de la justice seront toujours dans l'amélioration minimale d'une situation donnée, d'une situation, oui, comme disait Jean-Paul Sartre, ce grand penseur du concret. Par exemple, dans ses réflexions sur la question juive, comme aussi dans ses critiques de la colonisation ou dans ses textes des années 50 et 60 en général, il pensait le concret, le progrès de la liberté, non pas seulement comme le respect d'une liberté abstraite, mais comme le changement d'une situation. Oui, c'est en changeant concrètement la situation des êtres racisés, c'est en changeant concrètement les contextes au nom des principes et par des critères et des seuils très précis, très progressifs, en changeant tel ou tel détail du monde au nom d'un grand principe que l'on peut rendre confiance dans la justice et dans la démocratie. Concrétiser la justice, ça n'est pas la référer à un concret mythologique, ça n'est pas non plus chercher à la réaliser d'un coup comme un grand principe abstrait et utopique, c'est l'incarner dans des dispositifs minimaux, mais qui changent concrètement la vie, qui ont des effets sur notre vie, un peu comme concrétiser la science, concrétiser le pouvoir de la science, c'est produire un vaccin qui ne réduit pas totalement l'efficacité ou le danger d'un virus, mais qui l'empêche simplement de nous détruire et de faire s'écrouler une société. Ainsi, la justice concrétisée est-elle le problème central du moment présent?
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur le site radiofrance.com. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Alex Dang. Merci aux équipes techniques de France Bleu Isère qui ont permis ce duplex avec Grenoble. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!